agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Eh bien, hier soir, après 2h15 de délibération, les jurés parlementaires de la Haute Cour ont condamné Xavier Vallat à 10 ans d'emprisonnement et à l'indignité nationale.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Lorsque survient la brutalité d'événements tels que celui qui a endeuillé la France entière, celui des assassinats barbares du 7 janvier dernier, le désarroi collectif cherche spontanément à les désigner et à les punir d'une manière qui puisse paraître adaptée à l'exceptionnalité au moins apparente de leur cruauté. Ainsi a surgi, de plusieurs côtés, l'idée de ressusciter à l'encontre des djihadistes français le crime d'indignité nationale, un crime qui a été défini à la Libération après qu'a sombré dans la honte le régime de Vichy et la collaboration avec l'ennemi nazi. La peine de dégradation nationale qui a touché quelque 100 000 personnes entre 1945 et 1951, une peine à laquelle un député UMP Philippe Meunier avait proposé dès novembre 2014 de redonner vie et entraînant pour tout terroriste la privation des droits civiques, civils et politiques. Après le massacre de Charlie Hebdo, la porte-parole du Parti Socialiste, Annick Le Petit, avait dit que la création renouvelée d'une telle peine aurait, je cite, « la vertu de rappeler que prendre les armes contre son pays est de la même nature que la collaboration avec l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale ». Nicolas Sarkozy a opiné dans le même sens au nom de son parti. Le gouvernement, finalement, a renoncé depuis lors à cette idée, mais le seul fait qu'il ait pu y songer stimule le goût d'aller voir de plus près ce que furent le sens, la portée, les racines historiques, les conséquences de l'indignité nationale infligée voici 70 ans. Anne Simonin, historienne au CNRS, a étudié naguère dans un ouvrage majeur ce moment de notre droit en le replaçant dans une durée pluriséculaire et je me félicite de l'accueillir ce matin à mon micro.
Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de fauchetons, la brochette de sacrés cochons, de Paul Marion à de Brinon, d'Arnand, Doriot, Laval, Henriot, d'un air éteint, il s'écria soudain « Y a-t-il des salauds parmi nous ?»
Tous, tous, tous.
Traîne tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin, il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain.
Anne Simonin, bonjour.
Bonjour, Jean-Noël Jeannet.
Je ne dissimulerai pas que c'est vous qui avez choisi cette première archive. Il s'agit de Pierre Dac, qui chante « Les fils de Pétain », un enregistrement de Londres le 23 janvier 1944. Pourquoi en aviez-vous le goût ?
Parce que je pense que la formule, comme toujours avec Pierre Dac, pour qui j'ai une immense admiration, et je crois absolument au poète, il me semble que « Les fils de Pétain », c'est exactement ce que l'indignité nationale visait à sanctionner. Et l'indignité, c'est un concept qui vient du droit civil et qui est toujours en application d'ailleurs aujourd'hui en matière successorale. Et donc, c'est d'abord une privation d'héritage pour le mauvais fils ou la mauvaise fille. Et donc, c'est pas du tout ce qui sera ensuite conservé dans la mémoire, à savoir que l'indignité nationale était un crime qui avait été conçu pour sanctionner des petits collaborateurs ou des collaborateurs véniels, des gens qui avaient fait des choses moins graves. Mais l'indignité nationale sanctionnait fondamentalement un nouvel ennemi public. Ce nouvel ennemi public, c'était le vichiste, quand on est historien. Mais quand on a le talent de Pierre Dac, c'était effectivement les fils de Pétain.
Et il faut naturellement replacer ça, nous le ferons tout à l'heure, dans la durée pluriséculaire qui conduit au moins jusqu'à l'Ancien Régime, finissant jusqu'à la Révolution française. De cela, forcément, nous allons parler.
Oui, parce que dans le cadre de l'histoire du droit, il y a cette notion d'indignité. Elle est qualifiée de nationale par les juristes de la résistance intérieure. Ça a une vraie importance à partir, donc, qui vont commencer à réfléchir sur ce nouveau crime. C'est très très rare en droit français de créer un crime nouveau. Et donc il y avait la situation historique de la France dans laquelle qu'avait créé le régime de Vichy était à ce point exceptionnel qu'il paraissait absolument indispensable de mettre en quelque sorte le droit à la hauteur des circonstances.
Alors comment est-ce que cette idée a surgi dès le gouvernement d'Alger devant l'Assemblée consultative? Comment cette idée s'est-elle concrétisée par des textes très précis?
Oui, puis avec un travail énorme qui a été fait à ce sujet par les juristes de la résistance. Il y avait une base qui était possible quand il a fallu réfléchir au fait qu'on allait sanctionner. Qu'il n'y aurait pas de libération sans justice et qu'à partir du moment où la France serait libérée, il faudrait pour qu'il y ait une véritable... Il n'y avait pas que les armes qui pouvaient mettre fin au conflit de la Seconde Guerre mondiale.
Et bien distinguer ce qui était justice et vengeance, que ce soit éclatant aux yeux de la démocratie restaurée.
Absolument. Et donc, il y avait une vraie nécessité de justice. Et pour rendre la justice, il y a une seule chose qui existe, c'est le droit. Il y avait donc... il fallait constituer et mobiliser le droit pénal. Et il y avait, en gros, deux écoles parmi les juristes de la résistance. Les juristes de la résistance intérieure, qui, eux, pensaient que les textes en application en 1939 ne permettaient pas de sanctionner la situation historique qu'avait créée le gouvernement de Vichy.
Qui était il fallait donc inventer une peine nouvelle, avec le grand inconvénient, bien sûr, que... elle serait obligatoirement rétroactive, ce qui est
un crime de lèse-majesté sous l'emprise de la Déclaration des droits de l'homme. Mais je pense que les juristes... Alors, ça a été des débats qui ont été des débats d'abord extrêmement virulents.
L'autre école
était les juristes de la France libre, justement, qui, eux, n'étaient pas très favorables à l'indignité nationale à cause de la rétroactivité. Et la rétroactivité a véritablement polarisé vraiment les oppositions. Et en gros, la thèse des juristes de la France libre était « Vous ne pouvez pas, au moment où vous rétablissez la République, où vous faites référence à la Déclaration des droits de l'homme, instaurer un crime rétroactif. » Ce à quoi les juristes de la Résistance répondaient, et à mon avis tout à fait justement, on ne peut pas interpréter de façon extensive des dispositions du code pénal. Et donc, la situation à laquelle nous avons affaire est tellement neuve qu'il faut créer un nouveau crime. Et puis surtout, ce crime, est de toute façon, sera une rétroactivité en quelque sorte plus douce, parce que on va sanctionner par une peine infamante des actes qui, sans ça, eussent été passibles de la peine de mort si on les avait incriminés sous le chef de crimes d'intelligence avec l'ennemi.
Sans compter que ce sera temporaire. Et d'entrée de jeu, on annonce que ce sera... qu'il y aura une limite dans le temps à l'utilisation de cette...
Absolument, de cette nouvelle incrimination. Donc c'est vraiment... on donne en quelque sorte toutes les garanties, puisque depuis la Révolution française, à partir du moment où la loi pénale instaure une incrimination plus douce, eh bien, la rétroactivité est parfaitement tolérable. Donc, je pense que les juristes de la Résistance avaient un raisonnement qui était absolument impeccable du point de vue du droit, du point de vue de l'histoire et du point de vue de la morale. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont été entendus, parce que la rétroactivité sera comme une sorte de tâche originelle de l'indignité nationale.
Pour redéfinir le fond de tableau sur lequel tout cela s'est affirmé, je veux dire l'instauration de cette peine d'indignité nationale, écoutez donc ce propos de Marcel Villard, qui était le secrétaire général, le numéro 2 en fait, du ministère de la Justice, au lendemain même de la libération de Paris. Marcel Villard, qui est un communiste et qui lance contre les collaborateurs l'appel que voici.
Français, Françaises, à mesure que la nation se libère elle-même par son victorieux effort, avec l'appui de ses alliés, elle exige avec plus de force le châtiment immédiat des traîtres et des profiteurs de la défaite. Elle attend de son gouvernement provisoire une fermeté inflexible et prompte à l'égard de tous ceux qui ont des comptes à lui rendre. Elle entend que les responsables, tous les responsables, soient mis hors d'état de nuire hors d'état de se soustraire au sort qu'il mérite. Devant la patrie encore en danger, votre gouvernement provisoire assume toute la responsabilité de cette œuvre de justice et de salut public. Il frappera haut, vite et juste, mais il ne peut rien sans la confiance et l'appui du peuple, dont il doit exprimer les aspirations. C'est sur cette confiance et cet appui vigilant des masses qu'il compte pour accomplir sa tâche efficacement, dans l'ordre et la dignité que requiert la France victorieuse et meurtrie. Son secrétaire général provisoire à la justice appelle toute la population française à l'aider patriotiquement, en refusant asile à tous les collaborateurs et en s'opposant à leur fuite ou à leur dissimulation, en les livrant sains et saufs aux autorités militaires et civiles chargées de leur arrestation, en fournissant à celles-ci toutes indications possibles sur les résidences, dépôts et cachettes où il faut sans délai orienter les recherches et les perquisitions, en secondant la force publique dans la surveillance des routes et chemins, des gares et des aérodromes, par où les antipatriotes fuyards pourraient tenter de s'échapper avec leur butin. La trahison paye, ont-ils cru ? Eh bien non !
Eh bien non, il faut frapper haut, vite et fort, Anne Simonin. Il y a là l'appel à une dénonciation, mais non pas une délation.
Oui, alors d'abord il y a une espérance, puisque le 26 août 1944, c'est le début, c'est le premier texte, c'est la date de la première ordonnance codifiant l'indignité nationale, et l'espoir qu'on va rendre une justice rapide. Voilà, ça a été quelque chose qui était extrêmement fort, que tout ça était une affaire de 3-4 mois. Évidemment, ce sera une affaire d'années, puisqu'on y sera encore début 1951. Et s'il y a bien une chose qui semble toujours difficile à faire comprendre à l'opinion publique, c'est que vous ne pouvez pas demander à la justice qu'elle soit à la fois rapide et juste. Et donc ça, c'est une sorte d'oxymore, quoi, d'impossibilité structurelle. Et on voit bien, et c'est pour ça que les demandes de réaction extrêmement rapides, surtout face à des événements traumatiques, en disant on veut comme ça des sanctions justes dans le temps et prises rapidement, en règle générale, échouent toujours.
Donc, d'ailleurs, le rôle de la justice, et en particulier de cette nouvelle incrimination, a été de faire échapper un certain nombre de Françaises et de Français aux effets destructeurs d'une pure passion. C'est un aspect majeur de Absolument. L'ambition des résistants.
Et ce que je trouve tout à fait remarquable dans cet extrait de Marcel Villard, c'est qu'on voit bien que ce qui sera beaucoup reproché aux Français d'avoir été ces fameux délateurs permanents des uns des autres, c'est un comportement tout à fait différent auquel appelle Marcel Villard, et c'est un comportement qui est celui de la dénonciation civique. C'est pas du tout de la délation. C'est qu'on imagine qu'il y a une soif de justice au sein du peuple français, que ce peuple va collaborer étroitement avec, attention, les autorités constituées, c'est-à-dire que les mots qui reviennent, c'est ordre et dignité, d'accord ? Et qu'on va parvenir à recréer du consensus. Et ce qui aura toujours été exploité, l'épuration aura toujours été ensuite, dans les discours de l'extrême droite, exploité comme une source de guerre civile, c'est, à mon avis, totalement faux par rapport à ce qu'ont voulu les promoteurs de l'épuration.
D'ailleurs, c'est exactement la tonalité des éditoriaux d'Albert Camus dans, oui. dans Combat, qui surgit à ce moment-là de la clandestinité, au premier rang de l'attention. Camus écrit... Quatre jours avant le propos de Villard, le gouvernement de Vichy s'est évanoui en fumée. Ces hommes qui nous ont tout rationné sauf la honte, qui bénissaient d'une main pendant qu'ils tuaient de l'autre, qui ajoutaient l'hypocrisie à la terreur, qui pendant 4 ans ont vécu dans un effroyable mélange de prêches moraux et d'exécutions, d'homélie et de torture, ces hommes ne peuvent attendre de la France ni l'oubli, ni l'indulgence. Nous ne sommes pas des hommes de haine, mais il faut bien que nous soyons des hommes de justice. On retrouve exactement cette opposition Absolument. Entre la passion et la justice. Il n'y a pas deux politiques, il n'en est qu'une, et c'est celle qui engage, c'est la politique de l'honneur. Et quelque temps plus tard, il écrit encore, la notion d'indignité nationale, nous y voilà, que le ministre de la Justice vient de préciser, correspond à une loi d'honneur. Elle concerne ceux qui ont su trahir leur pays sans cesser de respecter la loi. crois que c'est très important.
Absolument. Et d'autant plus que dans la tradition, indépendamment du caractère que je trouve assez magique des textes de Camus, mais dans la tradition de la pensée politique, donc c'est toujours ce fameux Montesquieu attribuant l'honneur comme principe de la monarchie, quand celui de la République serait la vertu, alors que l'honneur est une notion qui a toujours été d'une importance absolument essentielle, Révolution française compris, puisque on a considéré, enfin la Révolution française, d'un point de vue du droit pénal, c'est d'abord la première grande démocratisation de l'honneur.
D'ailleurs, Montesquieu lui-même a apporté beaucoup de nuances à cette trilogie où la troisième branche étant celle du despotisme avec la crainte.
Absolument.
Ça, c'était plutôt Vichy.
L'histoire de la citoyenneté républicaine, si l'on admet qu'elle commence donc avec le code pénal de 1791, il y a une volonté donc de démocratiser l'honneur, de faire en sorte que des peines qui jusqu'alors étaient exclusivement réservées à des aristocrates ou à des gens de la noblesse, qui était la dégradation de noblesse, soient désormais applicables à tout un chacun sous la forme de la dégradation civique. Et comme je ne connais pas de peine qui puisse retirer quelque chose qu'on n'a pas, s'il fallait donc que l'honneur soit rendu au peuple, soit rendu à n'importe qui, pour que n'importe qui, femme comprise, alors ça c'est encore des débats, puisse être passible soit de la dégradation civique, soit du carcan, qui était une forme allégée de dégradation civique. Et donc, ces peines, qu'on appelait des peines infamantes, je dis appelées parce qu'à partir de 1992, ces peines ont disparu du code pénal, étaient des peines qui protégeaient la citoyenneté et qui liaient très intimement l'histoire de la citoyenneté française avec celle de l'honneur civique.
C'est pourquoi la réflexion d'aujourd'hui sur l'indignité nationale, qui est l'occasion de cette conversation, Anne Simonin peut tirer tant de profit à être resituée dans cette longue durée. Rappelons les chiffres des punitions de 1945 à 1950. Il y a eu environ 9000 personnes qui ont été exécutées hors du cadre légal, 1500 condamnations à mort et environ 100 000 dégradation.
Oui, c'est-à-dire 1500 condamnés à mort exécutés. Il y a eu donc ça, c'est effectivement des chiffres sur lesquels maintenant tout le monde est à peu près d'accord. Et appliqué à titre principal et à titre complémentaire, l'indignité nationale a concerné entre 90 000 et 100 000 Françaises et Français. C'est donc la sanction qui a été le plus appliquée. Voilà. Donc je pense qu'il faut, autant la terreur a sombré dans la guillotine, autant il me semble, et que c'est quelque chose qui doit être absolument porté au crédit du gouvernement provisoire et du général de Gaulle, la peine de la libération, ça n'est pas la peine de mort, ça n'est pas la guillotine, c'est l'indignité nationale. Et quand on a traversé les épreuves qui ont été celles de la France entre 1940 et 1944, avoir su maintenir cette retenue dans la répression est une chose vis-à-vis de laquelle on doit être absolument en dette par rapport aux hommes de la résistance.
Pour vous proposer un cas concret, pour donner chair et vie à ces réalités que vous évoquez, ces attitudes, ces comportements collectifs, cette politique de 1944-1945, voici le procès de Xavier Vallat, qui a été commissaire aux affaires juives sous Vichy, l'avant-dernier, et l'autre ayant été l'infâme d'Arquet de Pellepoix, le successeur. Xavier Vallat est jugé en décembre 1947, et c'est Frédéric Potcher, le fameux chroniqueur judiciaire, qui rend compte de ce prétoire.
Eh bien, Vallat, comment avez-vous pu, vous, ancien combattant, assurer de votre esprit de collaboration le plus loyal? Vallat se dresse. Qu'est-ce que vous voulez insinuer, monsieur le Président? Que j'ai fait montre de servilité à l'égard des Allemands? Tout de même, en face de ces quelques mots que vous citez, il y a mes actes, il y a mes gestes. Moi, servile, jamais. Le mot collaboration a existé avant Montoire, d'abord. Il n'y a pas que le mot, dit le président Noguer. Il y a la chose, et nous en avons souffert de la chose. Ce qu'il y a d'affreux, voilà, voyez-vous, c'est que vous puissiez exposer tout cela avec autant de tranquillité, d'autorité, d'inhumanité même. Vallat, qui ne se contient plus, devient violent, gesticule comme un forcené. Vous me reprochez, dit-il en substance, ces lois d'exception qui ne touchaient qu'un petit nombre de Français et vos tribunaux. Qu'ont-ils fait des 100 000 Français qui sont frappés, dit, d'indignité nationale? Je n'ai jamais été guidé par des sentiments racistes, messieurs. J'ai soutenu l'idée d'un anti-judaïsme d'État, et c'est tout. Un juré, vous dites que vous n'êtes pas raciste ? Alors comment avez-vous pu accepter la direction du commissariat aux affaires juives ? Et Valla froidement répond, j'ai profité de la présence des Allemands pour mettre en application mes théories antisémites. On parle longuement de la rafle de juillet 41 à Paris. 700 arrestations, parmi lesquelles 350 anciens combattants. 180 décorés de la Légion d'honneur pour fait de guerre. Vous vous souvenez, on les a parqués à l'école militaire, puis on les a emmenés à Compiègne. Il paraît que Valla est intervenu auprès des Allemands. Sans résultat, dit un témoin. Xavier Valla. Naturellement, je suis intervenu. Tous ces juifs qui étaient arrêtés étaient des anciens combattants français comme moi. Un autre témoin assure que lorsque Valla fut chassé du commissariat aux questions juives par les Allemands, M. Stora passa clandestinement en zone libre, puis à Vichy, pour obtenir que le maréchal fît pression sur les Allemands pour le maintien de Valla à son poste. Le président Noguer. Vous considériez Valla, monsieur, comme utile à votre défense? Le témoin hésite à répondre, puis enfin il dit. On nous promettait Darquier de Pellepoix, nous le connaissions. Alors, de deux mots, nous préférions le moindre.
Eh bien, hier soir, après 2h15 de délibération, les jurés parlementaires de la Haute Cour ont condamné Xavier Valla à 10 ans d'emprisonnement et à l'indignité nationale. Verdict modéré, malgré la pression des jurés communistes qui ont du reste refusé d'assister au prononcé de l'arrêt. Xavier Valla n'a pu retenir un « merci, messieurs, merci » à l'adresse de ses juges. Il n'a pas pu non plus s'empêcher d'embrasser ses défenseurs.
Il a embrassé ses défenseurs et dit merci à ses juges. Voilà une attitude qui peut être riche d'informations sur un comportement, sur une réaction, sur une psychologie.
Absolument, et puis surtout sur l'écart qu'il y aura entre ce que Xavier Valla écrira sur l'indignité nationale et visiblement la satisfaction qui fut la sienne de n'être condamné qu'à l'indignité nationale avec 10 ans de prison. Sur ce texte, je voudrais revenir peut-être sur 3 points. Le fait, et qui me paraît absolument essentiel, qu'on voit bien dans l'approche sémantique, que l'antisémitisme, l'antijudaïsme et le racisme sont pour les contemporains une seule et même chose.
Il commence par dire qu'il n'est pas antisémite, et puis après il explique qu'il en a profité pour installer l'antisémitisme.
Monsieur Valla n'en est pas une contradiction près. Donc effectivement, ça fait partie de ces jeux sur les qualificatifs. Moi, ce qui m'importe, c'est que dans le cadre de l'ordonnance instaurant l'indignité nationale du 26 août 1944 et dans le texte définitif du 26 décembre 1944, le racisme est très directement incriminé. Et quand on dit racisme, on incrimine donc tous les comportements antisémites.
Il n'est pas mauvais de le rappeler aujourd'hui parce que parfois on sous-estime l'attention portée dans ces années-là aux crimes et aux barbaries antisémites.
Absolument, et surtout ce qui fait que la figure du bon citoyen, qui est celle portée par le texte de l'indignité nationale, en fait, le mauvais citoyen, c'est l'indigne national. Eh bien, en 1944, il était très clair qu'un mauvais citoyen, au sens du droit pénal, était un antisémite. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, alors peut-être justement dans la lumière des événements actuels, mais que fondamentalement, c'est la République qui a émancipé les Juifs et que le respect ou la condamnation la plus formelle de l'antisémitisme fait partie de la citoyenneté républicaine. La deuxième chose, c'est les chiffres qu'annonce Valla, qui m'étonnent beaucoup parce qu'il annonce 100 000 Françaises et Français en 1947, alors que les chiffres de l'extrême droite qui sont mis en circulation, et sous des plumes qui sont quand même parfois un peu surprenantes, notamment la lettre au directeur de la résistance de Jean Paulhan, sur laquelle on reviendra peut-être, annonce 400 000 Français frappés d'indignité nationale. Et donc ça a toujours été, voilà. Valla, pour le coup, sur ce point-là, est plutôt modéré, et il ne faut pas oublier que Valla est un juriste, et plutôt un très bon juriste.
Le chiffre est exact.
Le chiffre est exact. La chose, ensuite, c'est les jurés communistes. Alors ça, c'est une merveille, parce que ça fait partie de ces mythes de la libération qui veut que les jurés communistes aient toujours été ceux qui ont radicalisé les verdicts de l'épuration. Alice Kaplan, dans son livre sur Brasillach, a montré que ça n'était pas le cas. Et on voit bien là, dans le cas de Valla, c'est que les jurés communistes sont tellement écœurés par le fait que le verdict est beaucoup trop... est insuffisant. Je rappelle, 10 ans de prison et indignité nationale pour avoir été responsable du commissariat aux questions juives.
On est en décembre 47 et il est possible que le temps passé ait contribué partiellement à cette indulgence.
Oui, mais même, c'est-à-dire que là, Valla bénéficie à mon avis totalement de ce que représentent ces titres d'anciens combattants. Là, pour le coup...
Il a perdu une jambe en 14-18.
Voilà. Donc il y a... Mais c'est normal, est-ce que ça reste un verdict incroyablement... léger. Bon, les jurés communistes refusent d'assister au prononcé. D'accord. Donc à chaque fois, ça voulait dire qu'il y a donc une opposition et qu'eux étaient pour un verdict beaucoup plus lourd. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que qu'est-ce qui a posé problème dans le cadre de la libération, en tout cas des jurys de l'épuration, c'est que les jurés... Pourquoi il y avait autant de jurés communistes? Parce que les jurés communistes, ils répondaient aux convocations. Le parti disait, vous devez siéger, siéger.
Dans la ligne du propos de Marcel Villard tout à l'heure.
Absolument. Alors que quand vous étiez les gens, le problème, le cauchemar pour les présidents d'audience, c'était les constitutions de jury, parce que personne ne voulait siéger. Et donc, l'absence des autres Françaises et Français fait qu'on a de facto donné une prééminence aux jurés communistes qui, eux, faisaient leur travail.
Pourquoi ne voulaient-ils pas siéger pour des raisons de prudence?
Je pense qu'il y avait très vite, il y a eu une sorte, alors on connaît mal, parce que c'est compliqué à analyser les jurys de la libération, mais très vite, on le voit à chaque fois, le quorum n'est pas atteint et c'est un cauchemar. Donc quand vous n'avez pas constitué le jury, vous ne pouvez pas constituer la cour. Et donc ça donne une espèce de prime aux jurés communistes qui, par ailleurs, et là on a des rapports des préfets, souvent se comportent pas du tout comme l'entend le parti. Et donc sont beaucoup plus dans l'indulgence on était censé l'attendre d'eux, pour une raison qui a très bien été étudiée par un très grand sociologue qui est Garfinkel, qui est qu'il est absolument absurde d'imaginer que parce que vous êtes communiste et parce que vous allez être juré, vous allez avoir les mêmes positions. Il y a une sorte d'autonomie de la position. Et donc quand vous êtes juré, vous êtes un citoyen qui prend en charge un problème universel.
Je voudrais maintenant, Anne Simonin, que nous revenions à cette période matricielle, en vérité, de la Révolution française, puisqu'on trouve bien des comportements, des attitudes qui ne sont pas sans annoncer ce qui s'est passé plus tard et ce que certains voudraient voir se passer peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire la dénonciation, l'inscription sur une liste d'infamie, vue comme une punition. Concrètement, le carcan. Marat parle d'un tableau d'incivisme. Il y a là des origines de cette notion que nous considérons aujourd'hui, celle de l'indignité nationale?
Oui, parce que je pense que ça se réfère, je crois, à deux choses. À l'importance des peines infamantes en droit français, en droit pénal en particulier, c'est-à-dire quand on parle de peines infamantes, c'est des peines qui portent atteinte à la réputation de la personne, mais qui surtout établissent un statut de sujet de droit très dégradé. Parce que les peines infamantes, ça n'est pas simplement une atteinte à la réputation, c'est aussi un statut de citoyen de seconde zone, puisque dans le cadre de la dégradation nationale, vous ne pouviez plus être fonctionnaire, vous ne pouviez plus être juré, vous ne pouviez plus être directeur d'école, vous ne pouviez plus être directeur de journal, vous n'étiez pas autorisé à être tuteur dans les conseils de famille, vous n'étiez plus autorisé à porter vos décorations, vous ne pouviez plus être avocat ou exercer une profession dans le monde judiciaire.
Il peut y avoir aussi une saisie des biens.
Alors, il y avait en plus de cette liste, ce bloc indivisible de déchéance, d'incapacité et d'interdiction professionnelle, deux peines complémentaires. La première qui était la confiscation générale des biens, qui est une des peines extrêmement dure qui a été appliquée dans la législation anti-immigrée de la libération et qu'il faut prononcer dans son entièreté pour comprendre ce que cela signifie. Confiscation générale des biens présents et à venir.
D'ailleurs, Lalit Tanlandal décrivait, à propos du décret de mars-avril 1993, ce décret nous fait mort de notre vivant pour prendre nos biens et nous fait vivre après notre mort pour prendre ceux de nos parents, voilà. De descendants.
Et c'est une très très bonne critique faite par la Litolinda. La confiscation générale des biens sera supprimée en 1958. Elle est toujours appliquée dans le cadre de certains crimes contre l'humanité et éventuellement trafic de drogue. Mais c'est une des peines qui est terrible parce que ça signifie qu'elle fait retomber les actes des parents sur les enfants, puisque vous ne pouvez plus transmettre des biens dont vous ne disposez pas. Donc, et à cette confiscation générale des biens, il fallait ajouter une peine d'interdiction de résidence possible, qui faisait que lorsque vous étiez condamné à l'indignité nationale, on pouvait vous interdire de résider dans Paris ou dans certains départements français.
C'était vrai sous la Révolution et c'est vrai aussi en 1945 ?
Absolument. Ça, c'est des peines qui ont là encore une généalogie. L'interdiction de résidence à Paris a été appliquée pendant la Terreur et on la voit ressurgir là avec des problèmes énormes parce que, mais ça fait partie des petites histoires, l'interdiction de résidence, c'était une peine qui n'existait pas. On connaissait l'interdiction de séjour qui avait été introduite donc en 1867 et là, c'est la façon dont les juristes travaillaient pendant la guerre qui était quand même compliquée. Quand ils étaient à Londres, ils n'avaient pas nécessairement leur code. Et je me souviens que François Marion m'avait raconté qu'ils allaient à la British Library pour consulter les codes, ce qui est incroyable quand même pour des juristes. Il y avait en tout et pour tout une collection complète du journal officiel. Donc, quand elle était dans le bureau de Monsieur X, elle n'était pas dans celui de Monsieur Y. Et donc, ils ont laissé passer cette chose énorme qui était que interdiction de résidence, alors que ce qu'il voulait dire, évidemment, était interdiction de séjour. Interprétation restrictive des textes pénaux dans le droit libéral.
Quelle est la différence entre séjour et résidence ?
Ah ben, c'est une excellente question, mais il a fallu la résoudre à la Libération, parce que l'interdiction de séjour reportée normalement devait être appliquée par le ministère de l'Intérieur, et quand Adrien Texier a vu ça, il a dit que du bonheur.
C'était le ministre de l'Intérieur de Gaulle.
Voilà. Et lui a dit, très bien, ils avaient tellement de travail en disant, messieurs, moi je sais appliquer l'interdiction de séjour, l'interdiction de résidence, c'est au ministère de la Justice de l'appliquer. Et donc là, il y a des échanges extrêmement drôles parce que le François de Menton demande
garde des Sceaux,
à la direction des affaires criminelles et des grâces en disant, messieurs, trouvez-moi une différence juridique entre le séjour et la résidence. Mais ça sera au ministère de la Justice d'appliquer cette sanction, en plus de tout le reste. Donc juste pour dire que le ministère de l'Intérieur disant, nous on applique l'interdiction de séjour, ça ne nous concerne pas, et donc il va falloir obtenir l'appui du ministère de la Défense pour rendre possible l'application de cette peine totalement nouvelle qu'est l'interdiction de résidence.
Je ne sais pas si ceux qui ont évoqué récemment à droite et à gauche la possibilité de restaurer cette incrimination de dégradation civique, de ce crime d'indignité nationale, ont eu dans l'esprit cette conséquence possible pour les terroristes potentiels. Et s'ils ont pensé en charger Christiane Taubira ou Bernard Cazeneuve ?
Non, mais j'en sais rien, mais je sais que, justement, on voit bien, là, dans le vocabulaire actuel, entre la confusion permanente qu'il y a entre le nom du crime indignité nationale, le nom de la peine dégradation nationale, c'est qu'il faut vraiment faire attention aux mots quand on touche au droit pénal, parce que ça induit des conséquences qui peuvent être absolument ravageuses en termes d'application des textes.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors je voudrais que nous revenions à la manière dont ces peines ont été infligées, quelles conséquences cela a pu avoir sur l'équilibre de la nation, comment les choses se sont passées concrètement. Et il y a toujours cette idée sous-jacente que l'existence de cette peine permet de moduler la sévérité et de ne pas se laisser entraîner. Et je pense en particulier à ce grand débat sur les femmes tendues. Je voudrais que nous y venions, tellement cet épisode demeure symbolique, demeure présent dans la mémoire collective et apparaît pour beaucoup comme une blessure presque inguérissable. Écoutez ce témoignage de Mandoline, c'est apparemment son nom ou son prénom, qui a été tendu à Libération. C'est un extrait de l'émission Daniel Mermet, Là-bas si j'y suis, sur France Inter, le 7 janvier 2002. Elle est interviewée par Claire Auter.
Nous étions dans le train, puis ils étaient 4 ou 5, ils sont venus vers nous, ils nous ont fait lever des banquettes, puis ils nous ont dit « Allez, suivez-nous ». Et ils ont fait arrêter le train à Lamure. Là, c'est un village à 50 km. Et ils nous ont fait descendre. Alors moi qui fréquentais le Fête Webel, et puis une autre qui fréquentait un cuisinier, et puis une qui était au bordel à Gap. une jeune femme qui était au bordel. J'avais une photo comme ça avec Siegfried dans mon sac. Ils l'ont déchirée, me l'ont jetée par la figure, en me disant « Regarde ton boche, ce qu'on en fait. » Et puis ils ont fait des recherches. Et puis quand ils ont vu que moi, je n'étais pas inscrite à point d'endroit, ni à la Gestapo, ni à la commandature, qu'on ne me connaissait même pas à la commandature et tout, alors ils ont dit « Bon, ben c'est un, ça c'est une histoire d'amour, on ne va pas s'arrêter là-dessus. » Ils m'ont lâché comme ça.
Mandoline, vous étiez enceinte à ce moment-là?
Oui, bien sûr, 3 mois. Écoutez, c'était en août, mais je ne peux pas vous dire la fin août, quoi. En 44.
Vous souvenez précisément?
Ah ben, je me rappelle, oui, parce qu'ils nous jetaient des pierres, et des pierres grosses comme ça. La marée chaussée nous a accompagnés jusqu'en haut, comme si on allait à l'échafaud. Alors, ils nous ont mis sur une chaise, et puis, avec la tondeuse, hop. Et puis, il y avait toute la foule qui était là, qui hurlait, sale boche, salope. J'ai pleuré, mais ils n'ont pas vu. Quand j'étais comme ça, et que je voyais mes cheveux qui tombaient, parce que j'avais les cheveux, attention, je voyais les cheveux qui tombaient, et les cheveux, ils les ont mis dans un papier, comme ça, ils me les ont jetés par la figure. J'ai repris le papier, j'aurais foutu par la gueule. Tac, j'ai dit, gardez-les. En souvenir, paf, là-haut, sur l'escalier. Et puis là, les gendarmes nous ont ramenés dans l'école.
Il y avait beaucoup de foule autour.
Oh, il y avait tout le village. C'était glamour, il y a quoi?
Oui, c'est beaucoup. Oui, oui, ouais. Il y a tous les habitants de la
Et puis c'était l'attraction de la libération. Encore, on a eu de la chance, hein, qu'ils ne nous aient pas foutus à poil, hein, parce qu'ils en promenaient toutes nues et ils les tendaient nues. Mmh. Et nous, ils ne nous avaient pas déshabillés. Mais nous, les gendarmes, ils nous avaient bien protégés. Moi, il y en a un, il me tenait le bras. Il me disait, je me rappelle, reste à côté de moi, baisse la tête et dis rien, ça va être fini.
C'est bien là, Anne Simonin, une peine marquée par l'indignité nationale. Et dans le même temps, je serais curieux de savoir quel regard vous jetez rétrospectivement, parce que vous nous avez dit déjà que ce crime inédit avait peut-être servi à organiser la punition, à organiser la répression d'une manière qui ne fut pas excessivement brutale dans tous les cas.
Absolument. Et je pense que ça a été, d'ailleurs on le voit dans les notes qui sont faites sur l'application de l'indignité nationale en 1944, le souci est de faire en sorte qu'on retrouve que la justice n'échappe pas aux autorités constituées.
L'échafaud, c'est un grand mot quand on parle d'échafaud.
J'avoue que, je crois que n'avoir jamais rencontré un résistant, et j'en ai connu un certain nombre, qui revendique comme quelque chose dont il serait particulièrement, dont il ou elle serait particulièrement fier, les femmes tondues. Mais je pense que avoir cette vision, une vision exclusivement morale au jour d'aujourd'hui de ce phénomène, d'abord est quelque chose qui finit par être assez choquant. D'accord. Il y a un état de la conscience collective que cette dame Madame Mandoline décrit très bien, c'est-à-dire en disant il y avait la foule et c'était de l'attraction. C'est pas de l'attraction après 4 ans de collaboration et en quelque sorte d'avoir participé ou d'avoir vu ce qu'était donc le fait de s'exposer à une relation avec un Feldwebel qui représente l'autorité allemande. Il y a donc un crime qui est public, c'est-à-dire que cette dame, on sait que cette dame a un lien avec donc un des représentants pouvoir donc de l'occupant. Et il y a quand même un moment, je crois qu'elle va également partir en Allemagne, puisque donc on la ramène en train donc au début de son témoignage. Il se trouve que le départ en Allemagne a été considéré par les cours, les chambres civiques qui avaient donc la charge d'appliquer l'indignité nationale, comme ce qu'on appelle une circonstance aggravante de moralité. Et donc, à partir du moment où vous suiviez l'Allemand avec lequel vous étiez lié en Allemagne, vous abandonniez le territoire national. Il se trouve que dans le cadre de la législation républicaine, et ce depuis la législation anti-immigrée, vous étiez donc assimilable à un immigré, et que vous montriez très clairement votre rupture avec la communauté politique républicaine.
Il y a un autre aspect de ce témoignage qui, je trouve notable, c'est le fait que la gendarmerie protège Absolument. Les femmes en question contre le lynchage possible, contre les brutalités aveugles d'une foule en délire.
Voilà, et là, c'est quand même aussi une façon d'infliger une infamie avec une humiliation qui est terrifiante. Enfin, on ne peut qu'être en sympathie, surtout en tant que femme, qu'on vous fasse une chose pareille, c'est juste atroce.
Même en tant qu'homme.
Mais absolument, voilà. Donc là, mais la chose, c'est qu'effectivement, il y a des gendarmes, que ces femmes ne sont pas lynchées, qu'elles ne vont pas à l'échafaud puisqu'on les ramène dans l'école. Et je crois qu'il y a eu, même dans ce moment de justice populaire hors des cadres tout à fait légaux, il y a quand même eu une volonté de contrôle et de domination de la colère populaire. Voilà. Et je pense que donc que ça n'est peut-être pas glorieux, mais quand j'entends le ton sur lequel cette dame parle en disant ben, « je leur ai renvoyé mes cheveux », c'est-à-dire que la honte ne prenait pas sur moi, je trouve qu'on a quand même, à chaque fois, on a un peu oublié à quel point, effectivement, les gens qui ont été condamnés à l'indignité nationale, en tout cas pour une partie d'entre eux, ont refusé la honte et ont refusé en quelque sorte cette réintégration possible qui leur était donnée dans la communauté républicaine.
La manière dont les résistants ont considéré l'application de cette justice qui avait tant préoccupé les juristes, ceux de Londres, nous disiez-vous, comme ceux de la résistance intérieure avant la libération du territoire, cette manière de considérer cette justice a évidemment évolué de façon plutôt négative. Je pense par exemple à ce que Albert Camus, que j'ai déjà cité, pouvait écrire en janvier 1945. Il est déjà déçu. Il dit très probablement, il est maintenant trop tard pour que la justice se fasse. Le problème pour que la justice fût rapide était de la rendre claire. Question que vous évoquez de la rapidité de la justice. Si elle est trop lente, le problème est majeur. Évidemment, justice delayed, justice denied, comme disait Gladstone. Quand on repousse la justice, elle finit par ne plus être à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. Mais enfin, il faut du temps. Camus ajoute, or, il faut bien le dire et le répéter, il n'y a pas de loi qui s'applique à la forme de trahison que nous avons tous connue. On n'a pas été capable, finalement, de faire une loi, dit-il. Nous vivons dans un monde où l'on peut manquer à l'honneur sans cesser de respecter la loi. Que fallait-il donc faire, sinon créer la loi qui nous manquait? C'est ce qu'on s'était forcé de faire. Il s'agissait de créer cette loi dont nous avons besoin, de la formuler en termes clairs et irréprochables. Ce que, d'après Camus, on n'a pas réussi à faire.
Oui, mais bon, d'abord, il y a toujours, je pense, par rapport à la justice politique, une forme d'insatisfaction liée à ce que vous disiez très bien, donc la rapidité, la clarté et la justesse du verdict. Mais il me semble que, très bizarrement, la victoire rétrospective de l'indignité nationale, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que, et ça, c'était, il est vrai, moi j'ai travaillé longtemps sur ce sujet, avec une sorte de commisération qui était de dire mais pourquoi, en gros, et c'est vrai que quand j'ai
pourquoi
vu...
Pourquoi quoi ?
Pourquoi s'intéresser à ce crime qui n'a pas bien fonctionné, qui, j'ai regardé très attentivement les
arrêts... Vous voulez dire l'incrimination n'a pas bien fonctionné ?
L'incrimination n'a pas bien fonctionné, tout le monde a été contre, même François de Menton, qui avait été le principal promoteur de l'indignité, a fini par dire, bon, c'est vraiment, c'est une catastrophe, ça fonctionne pas. Et il y a deux hommes qui ont été pour moi absolument décisifs dans la réévaluation de l'indignité. Le premier, c'est le doyen Carbonnier, que j'étais allé voir et qui m'avait dit si, continuez. Continuez parce qu'il y a des mauvaises lois qui peuvent être des bonnes lois.
Doyen Carbonnier, qui est un juriste de réputation éclatante.
Oui, mais surtout le fait de dire arrêtons avec ces histoires de lois parfaites. Oui, moi je peux. L'indignité nationale, c'est une loi imparfaite. C'est une loi qui me semble avoir eu une incidence absolument essentielle. Encore une fois, il y a eu 17 000 condamnés à mort exécutés pendant la terreur. Il y en a eu 1 500 à la libération. Donc je demande qu'on tienne compte et que la République, entre l'an 2 et l'an 1945, la République a appris à être sage dans la répression de sa justice politique. Ça me paraît une première chose. Et la deuxième chose, que l'on voit au jour d'aujourd'hui, à partir du député Meunier, mais aussi de l'écho qu'a eu cette proposition de retour de l'indignité nationale...
Proposition UMP.
Voilà, proposition UMP. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on recherche, à travers le droit pénal, un moyen de préserver, de retrouver du consensus et de dire les peines traditionnelles ne suffiront pas pour dire à quel point la conscience collective a été blessée par ce qui s'est produit lors des attentats de Charlie Hebdo et cette manifestation incroyable. Si on cherchait le peuple de France, il était dans la rue. Pour une fois, on l'avait trouvé en tant qu'historien, mais qu'on a un besoin de consensus et de créer autre chose qui permette de dire à quel point on condamne en tant que citoyen républicain ce qui s'est produit.
Mais cette idée d'unité nationale est aussi celle qui, au bout de quelques années, va sous-tendre la proposition d'amnistie.
Absolument.
Et qui rejoint d'ailleurs l'idée du départ, c'est-à-dire que c'était une peine à terme. L'idée d'amnistie qui est concrétisée au Parlement en 1951. Écoutez cet extrait d'un débat à ce propos entre Pierre-Henri Tedjène, qui avait été un garde des Sceaux démocrate chrétien, MRP, à la Libération, et Daniel Meyer, ancien secrétaire général de la SFIO, du Parti Socialiste, qui sont en désaccord, ce désaccord qu'ils expriment à la Tribune de Paris, le 25 février 1952.
Il s'agit de savoir si, à l'heure présente, il existe ou non certaines catégories de condamnés qui ont maintenant droit à la pitié. Voilà le problème. Et alors, sur ce problème, je réponds par l'affirmative. Je crois que les mineurs, ces garçons, ces filles qui avaient moins de 18 ans, au moment où ils ont collaboré avec l'ennemi, ont maintenant droit au pardon, quelles que soient les conditions et les circonstances dans lesquelles, hélas, ils se soient rendus coupables de crimes punis par la loi pénale. Je crois aussi que les blessés de guerre, les mutilés, ceux qui après la collaboration ont essayé de se racheter sur les champs de bataille, ont été cités, ont droit aussi à la pitié et au pardon. Je crois que les gens qui ont été condamnés par les cours de justice à moins de 5 ans, ou qui actuellement sont encore en prison pour y purger une peine inférieure à 5 ans parce que le président de la République a jugé, au vu de leur dossier, que la condamnation d'abord prononcée était excessive et l'a réduit à une peine inférieure à 5 ans, ceux-là, par définition, sont des criminels mineurs qui ont maintenant droit au pardon. Et puis je crois aussi que les indignes nationaux, qui sont en liberté depuis toujours, qui n'ont jamais fait de prison, qui n'ont été jugés que par les chambres civiques, précisément parce que en 44, en 45, en 46, on n'a pas estimé qu'ils étaient suffisamment coupables pour encourir les sanctions prévues par les cours de justice, ceux-là ont maintenant droit aussi au pardon.
Monsieur Daniel Meyer.
Une étape nouvelle, plus exactement, mon cher Pierre-Henri Tedjène, dans la voie de la revanche des collaborateurs. Je suis absolument effaré, et vous me permettrez de le dire, un peu triste, lorsque j'entends un résistant aussi authentique et aussi héroïque que vous souligner ce que vous venez de dire. D'abord, lorsque vous nous dites « après grâce à 5 ans et moins, on pourra amnistier ». Cela signifie en droit qu'un condamné à mort, qui s'est bien conduit, qui a vu successivement ses peines réduites, et qui aujourd'hui a moins de 5 ans à faire, pourra être amnistié. C'est exactement le texte du projet. Ce qui, sur les 38 000 condamnations de détention des cours de justice, en supprime en bloc, messieurs, 34 000, soit les 9 dixièmes. Je vous signale également un article 5 de votre proposition permettant l'amnistie sans aucune exception de toute la collaboration économique. Je vous signale un article 9 substituant des tribunaux militaires pour ces contumaces à la haute cour. Un article 12 qui annule simplement toutes les décisions d'épuration administrative. Et quand Pierre-Henri Tedjène vient nous dire « c'est le pardon », je veux bien de notre point de vue, mon cher ami, ou la pitié, mais j'aimerais aussi que les autres, ceux qui en seront les bénéficiaires, considèrent cela comme un pardon et dissolvent très rapidement tous leurs groupes, tous leurs journaux, tous leurs écrits qui insultent la résistance et qui font en quelque sorte de ce que vous appelez la pitié, très exactement la revanche.
Le débat de 1951 vous paraît bien résumé ici, Anne Simonin ?
Oui, et puis je trouve que la clarté de Daniel Meyer, effaré et triste, est effectivement la bonne réaction. Il est très très bien de parler en termes de pitié et de morale, mais je pense qu'il fallait rester davantage dans le droit, et que ce qui a été fait avec la première loi d'amnistie qui intervient en 1951 pour l'indignité nationale est en réalité une façon de détruire totalement la loi qui avait été pensée par la résistance.
Expliquez-nous ça.
Alors c'est vrai, quand je dis qu'il y a une sorte de revanche aujourd'hui de l'indignité qu'on n'attendait pas, c'est parce que tout le monde a critiqué l'indignité nationale. Et d'abord, il y avait un problème structurel. Et ça, c'est exact, c'est que l'indignité, on l'a mentionné, entraînait dans le cadre de la peine de dégradation nationale un bloc indivisible de déchéance, d'incapacité, de privation de droit.
Sans qu'on puisse moduler.
Voilà. Et ça, c'était quelque chose qui était très dévastateur. Parce que c'était une peine, en réalité, extraordinairement lourde, qui était présentée comme une peine mineure, mais qui devenait, après la prison, l'indignité, la dégradation nationale, était une peine extrêmement sérieuse, surtout quand elle était associée avec des peines de confiscation générale des biens ou des peines d'interdiction de résidence. Et en réalité, on créait, avec cette peine appliquée à son maximum, une forme de mort civique.
D'ailleurs, il y a une lettre intéressante de Michel Debré, du jeune Michel Debré, jeune conseiller d'État, au garde des Sceaux, François de Menton, pour lui dire « Vous devriez modifier la loi en organisant des degrés, c'est un peu comme l'échelle nucléaire, voilà. Parce que pour éviter ce tout ou rien qui est ravageur. »
Et Michel Debré avait, ça c'est une lettre magnifique, c'est-à-dire que ça c'est une lettre de juriste qui dit « Il faut que vous divisiez, si vous ne divisez pas ce bloc de déchéance, d'incapacité et d'interdiction, vous créez une peine beaucoup trop lourde. » Mais parce que je pense que ça, c'est un vrai problème dans le rapport à l'infamie de droit dans le cadre républicain, c'est que comme la vraie peine, c'est toujours la guillotine et la peine de mort, on est beaucoup moins sensible au fait que les peines infamantes, encore une fois, ce ne sont pas simplement des peines de réputation, c'est des peines qui créent des statuts de citoyens de seconde zone, des statuts de citoyens dégradés et qui peuvent être des statuts donc extrêmement lourds. Donc il y avait ce problème d'inadaptation de la peine, c'est-à-dire qui était une peine tellement lourde par rapport à certaines incriminations qui étaient, bon, par exemple, qui étaient condamnés à l'indignité nationale, des gens qui avaient participé au Rassemblement National Populaire, des gens qui avaient adhéré à la milice, des gens qui avaient fait des conférences, mais autant de comportements qui sont parfaitement répréhensibles, mais au fur et à mesure où on s'éloignait de la période où ces comportements avaient été délictuels ou criminels,
et ressentis
comme étant des comportements criminels, il y avait une telle disproportion entre la peine et le crime que ça fonctionnait pas du tout. Et ensuite, il y a eu tout un travail de sape qui a été mené de façon extraordinairement intelligente par l'extrême droite en moquant, en venant sur l'indignité nationale et en disant ça c'est quand même inouï. Et c'était l'extrême droite qui, une fois n'est pas coutume, jouait les archanges à la fois de la vérité et de la pitié en demandant une proportionnalité entre le crime et la peine. Oui. Et last but not least, l'indignité nationale a été lâchée par ses principaux promoteurs.
Alors ça, c'est très intéressant de savoir pourquoi, finalement, cette peine qui a paru efficace, qui vous apparaît rétrospectivement comme ayant eu son efficacité, pour rejoindre cet équilibre, pourquoi elle s'est trouvée si mal considérée depuis lors. Pourquoi elle s'est, en quelque sorte, à son tour dégradée dans la mémoire collective?
Absolument. Mais parce que je crois qu'on a fait de la morale au lieu de faire du droit. C'est-à-dire qu'on a confondu ce qu'était l'indignité nationale et l'indignation. Il peut y avoir des comportements qui suscitent de l'indignation, mais qui n'appellent pas nécessairement indignité nationale. Et je pense qu'à force de faire de la morale, et on voit très bien dans l'interview de Pierre-Henri Tedjen, qui parle de pardon, qui parle de pitié, on n'est pas à l'église, d'accord? Et c'est Daniel Mayer qui recadre en disant « Cher ami, pourrait-on faire du droit ?»
L'un est plus catholique que l'autre, je vous en fais la confidence.
Oui, d'accord. Mais il y a un moment donné où on est censé séparer, vous me l'accorderez, la sphère laïque de la sphère religieuse.
Je vous l'accorde très volontiers.
Et donc, moi, je pense que... Et là, on voit une espèce de confusion. Le législateur n'a pas à pardonner l'amnistie. Ça n'est pas du pardon. C'est un oubli institutionnel pour des raisons qui ont trait à l'ordre public.
Et à l'intérêt national.
Et à l'intérêt national.
C'est la différence de la grâce par rapport à la grâce, évidemment.
Et voilà. Et donc, tout ça fait que cette indignité nationale est morte mal en point, parce que la loi de 51 est d'abord une loi anti-indignité nationale.
Et pour achever notre conversation, Anne Simonin, je voudrais que nous nous interrogions sur la résurgence de cette indignité nationale, de cette incrimination qui paraissait, à vous entendre, si déconsidérée, qui avait perdu de son prestige, sa portée au fil des ans et qui tout à coup renaît, réapparaît à propos du terrorisme djihadiste. Et pourtant, ce qui frappe, c'est vraiment plutôt la différence des situations. Je pense à tout ce que souligne la note d'un excellent historien du droit, François Saint-Bonnet, qui a récemment été établi. Et comme elle est très intéressante, nous mettrons un lien vers elle sur notre, si l'auteur y consent, sur notre site. Il met tout à fait en lumière un certain nombre de différences éclatantes qui expliquent peut-être pourquoi le gouvernement, comme je le disais en commençant, a renoncé après quelques hésitations à redonner vie à cette idée.
Oui, parce que rejouer, appliquer au jour d'aujourd'hui l'indignité nationale, c'est fonctionner sur une assimilation implicite du djihadiste et du vichiste. Et on voit bien qu'on a quand même, là pour le coup, quand on pose les choses un peu brutalement, est-ce que les vichistes d'hier sont les djihadistes d'aujourd'hui ? Il y a quand même un écart absolument majeur.
Les différences sont éclatantes.
Absolument. Et notamment dans le rapport à la communauté nationale. On peut, je pense, être en désaccord total avec la façon dont Vichy concevait son rapport à la France, mais il n'en demeure pas moins que ce rapport existait. Et donc, je pense que la dimension internationale du combat djihadiste rend ce rapport beaucoup plus ténu.
Mais oui, parce que l'indignité nationale était conçue pour des gens qui souhaitaient revenir dans la communauté des concitoyens, alors que les djihadistes, au contraire, s'inscrivent en rupture avec elle. Et qu'au fond, l'idée que l'indignité nationale doit conduire à la dégradation, ce qui suppose d'attacher une valeur aux honneurs républicains accordés par la nation, il me semble que les djihadistes sont sensibles à d'autres honneurs.
Oui, il y a effectivement un univers ou un cosmos qui n'a absolument rien à voir. Et puis, il y a quand même cet adjectif de l'indignité nationale, qui pour moi est quand même là, pour le coup, le combat des djihadistes est un combat transnational qui n'a strictement rien à voir avec les frontières nationales. Et puis,
c'est un enfant de la mondialisation, le djihadisme.
Voilà. Alors après, moi, je ne voudrais pas me prononcer sur le djihadisme, sujet sur lequel je ne connais rien. Mais je pense que déjà, il faudrait que l'indignité ne pourrait être conçue qu'au niveau européen, si elle devait revenir dans l'application actuelle. Et ce que je constate à partir donc d'une discussion parlementaire en Angleterre actuellement sur The Serious Crime Bill, qui est en discussion et qui sera le dernier grand texte voté par le Parlement anglais avant les prochaines élections au mois d'avril.
Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense en Grande-Bretagne ?
Ben, il y a la même demande de peines infamantes, c'est-à-dire que le député, un député conservateur qui s'appelle Dominic Raab, a proposé que soient publiés les noms des étrangers qui ont été interdits de résidence sur le territoire du Royaume-Uni à cause de leur activité extrémiste. Et je trouve quand même très étonnant que, et il se trouve que cette proposition, qui est donc une proposition d'infamie, puisque vous parliez tout à l'heure du tableau d'incivisme de Marat, on retrouverait avec ces listes qui seraient publiées des formes de tableaux d'incivisme, très étrange ou très intéressant, que aussi bien dans la common law que dans le droit continental, il y ait cette sorte de demande actuelle de retour, en tout cas des peines infamantes, ce qui mériterait, à mon avis, une réflexion plus approfondie que la façon dont ces peines ont un peu été honteusement chassées du code pénal en 1992. Et il reviendra au doyen Couvreux, dans un article de 2003, d'être le seul à s'en être ému.
Eh bien, cet article sera rajouté, bien sûr, à notre bibliographie sur notre site. Mais cette bibliographie doit être d'abord illustrée par votre ouvrage, Anne Simonin, un ouvrage qui a évidemment irrigué toute cette conversation sur la résurgence de l'indignité nationale, Le déshonneur dans la République, une histoire de l'indignité de 1791 à 1958. Vous l'avez publié chez Grasset en 2008. Rendons hommage aussi à l'excellent livre traduit de l'américain de Peter Novick, L'épuration française, paru chez Ballant en 1985. L'ouvrage de Marc-Olivier Baruch, que j'ai déjà eu à ce micro, Une poignée de misérables, Fayard 2003. Fabrice Virgili a publié à propos des femmes tendues que nous avons évoquées tout à l'heure avec vous, Anne Simonin, un livre qui s'appelle La France virile. Je pense que là aussi il y a quelques ironies. Les femmes tendues à la libération, paru chez Payot en 2004. Samedi prochain, je recevrai Philippe Dagen pour parler. Ce sera la dernière des émissions consacrée à une réflexion sur la portée dans l'histoire des événements dramatiques de janvier 2015 en France. Je recevrai Philippe Dagen pour parler de la caricature, en me demandant si elle a toujours été émancipée. Il nous aidera à le considérer. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et par Jeanne Guéroux, réalisée aujourd'hui par Anne Franchini, avec Anthony Thomasson à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Yves Gaillard pour les archives si précieuses de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, c'est au tour de Dominique Rousset de vous proposer l'économie en question.